Donc nous allons continuer notre parcours en cherchant des textes qui concernent les familles. Et nous sommes arrivés aujourd'hui dans la Genèse, chapitre 22. Genèse chapitre 22, nous allons lire les versets 1 à 18. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Genèse chapitre 22, verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils !» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Donc j'ai appelé le message ce matin, le don de nos enfants. Le don de nos enfants. Alors, hier, j'ai téléphoné chez moi, donc en Californie, pour parler à mes parents, parce que j'ai voulu qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse comme métier. Parce que là, je suis pasteur missionnaire en France. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient de moi? Et qu'est-ce qu'ils avaient pensé que j'allais faire ou qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse? Alors ma mère a répondu en disant, Je pensais que tu feras un bon avocat, mais surtout je voulais que tu ailles à l'université. » Elle ajoutait que ils ont eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à me persuader à y aller. Ah bon, d'accord. Alors mon père a répondu, je voulais que tu fasses ce que te plaisait. Voilà. Donc il n'avait pas de projet spécifique pour moi. C'est tout à fait normal que les parents dirigent leurs enfants et qu'ils aient des espérances vis-à-vis de leur avenir, n'est-ce pas? Alors, je peux imaginer que Abraham, lui aussi, avait donc élevé son fils Isaac. Il avait dirigé son fils Isaac, celui qu'il aimait, n'est-ce pas? D'une certaine façon, mais il avait certainement des grandes espérances pour son fils. Parce que déjà, Dieu avait fait des promesses à propos de ce garçon et que de par lui, il allait avoir des nations qui allaient naître de lui et que cette population allait être comme les étoiles du ciel. Hein? Mais ce n'est pas l'histoire qu'on lit aujourd'hui, justement. Hein? Donc il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire comme comparaison, en fait, entre Isaac et Jésus. Mais je vais viser quatre de ces comparaisons qu'on pourrait voir. À la fin, on va revenir à cette question, le don de nos enfants. Mais on va faire quatre comparaisons. Je pourrais dire déjà, Isaac était le fils promis comme Jésus était le fils promis. Isaac était le fils à sacrifier comme Jésus était le fils à sacrifier. Isaac était le fils à ressusciter comme Jésus était le fils à ressusciter. Et le dernier, c'est pas exactement parallèle, mais c'est que il y avait la soumission d'Isaac à son père, comme aussi il y avait la soumission de Jésus à son père. Donc, ce sont les points que nous allons voir. Tournez dans Genèse, retournez à chapitre 18 et le verset 14. À plusieurs fois, Dieu a parlé de cette promesse et j'ai pris seulement deux versets qui spécifient qu'il soit fils. Donc, dans ce contexte, Dieu promet que à Abraham et Sarah, tous les deux vieux et avancés en âge, vont avoir un enfant. Et au verset 14, Dieu dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile, n'est-ce pas? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette époque, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Alors, il est important de savoir que c'était un fils, hein, parce que les promesses concernaient le fils. Et Dieu n'allait pas envoyer sa fille, il allait envoyer son fils. Donc il y a quelque chose dans cette question de fils et de fille. Dieu avait dès l'éternité prévu que ça soit un fils. Et c'est important que nous aussi, dans le contexte du christianisme, de la religion de nos jours, qui veulent enlever tout sexe de la Bible, on ne dit pas notre parent céleste, on dit notre père céleste. On ne dit pas Jésus, l'enfant de Dieu, on dit Jésus, le fils de Dieu. On va respecter ces choses-là. Aussi, dans Genèse chapitre 21, et le verset 1 à 3, Genèse 21, le verset 1 à 3, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un enfant. Non, un fils. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et ça, c'était dans le texte qu'on vient de lire. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc, on voit ces choses encore. Isaac était le fils promis. Depuis que Abraham avait 70 ans, jusqu'à ce que cet enfant va naître quand il a 100 ans, c'était la promesse de ce fils-là. Maintenant, on va jeter quelques coups d'œil sur la question de Jésus. Psaume 2, verset 7. On va revenir dans la Genèse, chapitre 22. Donc, si vous voulez mettre un papier ou quelque chose là, on revient à Genèse 22, mais on tourne dans les psaumes. Psaume 2, verset 7 et verset 12. Ce sont des prophéties qui étaient exprimées 1000 années avant la naissance de Jésus. Ce sont des prophéties. Parce que Dieu n'était pas pris à l'improviste. On dit, voilà, j'ai envoyé mon fils demain ou l'année prochaine. Non, c'était déjà depuis avant la création que Dieu savait ce qu'il allait faire. Et déjà depuis l'entrée du péché dans le monde, Dieu commence déjà à parler de ce sauveur qui devait venir. Et dans Psaume chapitre 2, donc le verset 7, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Oh, ben, je suis dans le proverbe, excusez-moi. Je suis pas dans le bon livre. Désolé. Ok, Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et au verset 12, baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tout ce qui se confie en lui. Donc, ce psaume est un psaume qui concerne le royaume de Christ, qui va venir bien dans l'avenir, hein? Devant nous dans l'avenir. On parle de ça dans l'Apocalypse. Mais on parle toujours de cette même personne. Verset 12, baiser le Fils de Dieu, le Christ, quand il sera le roi, quand il sera dans son royaume, ceux qui se rebellent contre lui seront écrasés. Parce qu'il sera un grand roi, très puissant. Mais il n'est pas venu comme ça à son premier venu. Et là, on peut voir dans Ésaïe, chapitre 9. Le prophète Ésaïe, chapitre 9. Cette prophétie qui était exprimée plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, il y a plusieurs prophéties là-dedans. Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc la grande partie de ces deux versets parle encore du royaume de Christ qui doit venir. Qui doit venir. Mais au début, hein, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça parle d'une autre partie de l'histoire de cet homme qui doit venir. Ça parle de sa naissance. Ça parle de Noël. Hein? Et comment il devait venir en tant que bébé, mais non pas simplement un bébé quelconque, mais un fils. Donc, Abraham attendait, en fait, que son fils Isaac allait devenir le père de plusieurs nations, allait devenir l'ancêtre même du Christ, parce que dans Genèse chapitre 12, la première fois, quand Dieu exprime la promesse, il dit que son descendant, sa descendance sera la source de bénédiction pour toutes les nations. Hein? Et d'une manière semblable, Dieu, il avait des attentes vis-à-vis de Jésus. Il devait devenir roi. Il va devenir roi. Mais ce n'est pas la première chose qui va s'accomplir, n'est-ce pas? Et donc, on peut voir encore dans Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 21, l'accomplissement de la première partie. Le Fils promis, Jésus le Fils promis, Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle, donc en parlant de Marie, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc en premier lieu, il y a cette question d'enlèvement des péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc son prénom, si vous voulez, est Jésus. Mais sa personne est Emmanuel. Il est Dieu devenu chair. Il est Dieu parmi nous. Mais son prénom, le nom qu'on lui donne tous les jours, c'est Jésus. D'accord? Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc voilà, on a ce fils promis. Isaac était le fils promis et Jésus était le fils promis. Le second point, c'est que Isaac était le fils à sacrifier. Donc là, on revient dans Genèse chapitre 22, le verset 1 et le verset 2. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il dit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors Dieu a demandé à Abraham de sacrifier ce fils. Ce fils, concernant lequel Dieu avait donné toutes les promesses. Ce n'est pas logique. Comment ça se peut? On peut imaginer toutes les émotions que Abraham a dû avoir quand il reçoit ce commande de Dieu en disant, va tuer ton fils. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'était le jour après qu'il est parti, peut-être. Mais en attendant, il doit réfléchir. C'était certainement difficile. Mais on va voir dans le prochain point ce qui était la solution d'Abraham. Mais pour l'instant, on sait simplement que Abraham doit sacrifier son fils. Et Dieu insiste, ton unique. L'unique fils d'Abraham et de Sarah. L'unique fils qui avait reçu toutes les promesses. Eh bien, Jésus aussi était le fils à sacrifier. Regardez dans Jean chapitre 3. L'évangile de Jean. Chapitre 3. Et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça vous rappelle quelque chose quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Parce que Dieu allait faire venir dans le monde un fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Et aussi dans le premier épître de Jean, donc juste un petit peu avant l'Apocalypse, le premier épître de Jean, chapitre 4. Premier épître de Jean, il y a trois petites épîtres de Jean. Premier épître, chapitre 4, à partir du verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu avait prévu. C'est vrai que l'assassinat de Jésus était une grande tragédie de manière humaine. Ce n'était pas normal qu'un homme innocent soit mis à mort. Et pourtant, il fallait, dans le plan de Dieu, que l'unique homme innocent meure afin que nous vivions. Il est devenu, donc, il était envoyé pour être, et il est devenu, par son acte, notre sauveur. Et nous savons qu'il est ressuscité par la suite, ce qui est le prochain point dans le message. Mais dans le texte qu'on lit là, dans 1 Jean chapitre 4, regardez le verset 11, donc le suite. Bien-aimés, donc vous qui ont cru en Jésus-Christ, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et à combien de fois Dieu nous a rappelé de cette règle, que nous devons aimer les uns les autres. Aimer étant l'expression de la bonté. Hein? Attention que nous ne devenons pas trop durs dans nos cœurs, trop froides dans nos cœurs pour ne pas exprimer la bonté les uns envers les autres. Vous savez, comme Dieu, du fait que Dieu allait envoyer son Fils parmi les descendants d'Abraham, eh bien, il voulait voir à quel point Abraham allait lui faire confiance. Et donc, il a dit, prends ton fils, ton unique, et offre-le en holocauste. Alors, regardez maintenant dans Genèse chapitre 22, et le verset 15 à 18. Genèse chapitre 22, et le verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure pour moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité. Et ta postérité, voilà, possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire le Christ, parce que tu as obéi à ma voix. Combien prophétique aussi était la phrase en verset 8, dans le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu te pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Vous savez, quand Abraham a exprimé cette phrase, il comptait tuer son fils. Il ne pouvait pas prévoir que Dieu allait mettre un agneau, un bélier, derrière lui pour sacrifier cet animal. Il prophétisait ici que Dieu allait pourvoir pour lui-même l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Il parlait de son petit-fils à lointain, Jésus, quand il a exprimé cette pensée. Dieu pourvoira pour lui-même la victime pour l'Holocauste. Notez aussi dans le verset 13, Abraham lève les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Je trouve intéressant cette petite phrase. À la place de son fils. Pourquoi? Parce que quand Christ est mort sur la croix, il est mort à notre place. Il est mort à la place de chacun, de chaque individu. Il faut simplement que l'individu accepte que Christ soit sacrifié à sa place, qu'il soit mort pour ses propres péchés. Et en ainsi faisant, par cette confiance qu'on a en Jésus-Christ, il devient le sauveur de cette personne. Avez-vous accepté Jésus comme l'agneau qui était à votre place? C'est la grande question à vous poser. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu n'as pas demandé qu'on assiste à l'église. Tu n'as pas demandé les prières. Il a demandé la confiance. Qu'on est confiant. Croyez au nom du Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Et puis le troisième point, c'est qu'Isaac était le fils à ressusciter. Hein? Toujours dans Genèse chapitre 22, verset 5. Alors, on ne le voit pas. Tiens, je vais le arranger différemment. Parce qu'on ne le voit pas tout de suite dans cette phrase, la foi qu'Abraham a. Mais on va le voir déjà dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Hébreux chapitre 11, dans le Nouveau Testament. Chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Donc on parle de ce chapitre 22 de la Genèse. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il, c'est-à-dire Abraham, il pensait que Dieu est puissant, dans le présent, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, c'est une espèce de préfiguration. Abraham avait la confiance que s'il obéissait à Dieu, que Dieu allait aussi tenir sa promesse, et donc, il allait tuer son fils en sacrifice à Dieu, et Dieu allait le faire revenir à la vie afin qu'il puisse accomplir les promesses. Et cette idée-là, on ne le voit pas très clair dans Genèse chapitre 22, mais j'ai trouvé d'où vient cette idée-là. C'est dans le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, donc je vais tuer mon fils, et nous reviendrons auprès de vous. Alors soit Abraham a menti, parce qu'il savait qu'il allait tuer son fils et le laisser sur la montagne, ou bien, il exprime cette confiance en Dieu, que non seulement il va adorer Dieu en tuant son fils, mais que Dieu allait le ressusciter par la suite, et il allait marcher avec son fils, redescendre, et avec les serviteurs, ils allaient retrouver Sarah. Et c'est ainsi aussi que Jésus était le fils à ressusciter. Et on peut voir ça dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, l'épître aux Romains, chapitre 1, à partir du premier verset du livre. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, donc la bonne nouvelle de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, il, ça veut dire l'évangile. L'évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'était par sa résurrection. Ce fils a ressuscité. Eh bien, c'est par sa résurrection que toutes les autres choses qu'il avait dites et faites étaient rendues, étaient montrées vraies. Quand il a dit, je suis la résurrection et la vie, nul ne vient au Père que par moi. On savait que c'était vrai au moment que Jésus lui-même était revenu à la vie. Donc, comme Isaac était le fils à ressusciter, Jésus aussi était le fils à ressusciter. Donc, quand Dieu a envoyé son fils pour être sacrifié à travers Noël et toute cette vie, et puis l'acte même de mourir sur la croix, Dieu savait de toute façon ce qu'il allait faire par la suite, c'était de ressusciter son fils. Et puis, Isaac aussi était... il y avait donc cette soumission d'Isaac à son père, hein, comme il y a aussi la soumission de Jésus à son père. Et nous pouvons voir cette soumission encore dans Genèse chapitre 22. Donc, on ne va pas le lire parce qu'on va récupérer un petit peu de temps, mais on voit la soumission déjà d'Abraham à Dieu. Hein? Parce que Dieu a dit, tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier. Et Abraham n'a pas dit non, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Donc, on voit déjà dans la vie d'Abraham cette soumission qui se trouve donc dans le verset 5 à 9, aussi en Isaac. Genèse chapitre 22, verset 5 à 9. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham, verset 6, prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Bon, peut-être même Isaac avait aidé dans cette partie-là. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors, fils rebelle, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah ben non, papa, tu ne vas pas me lier, tu ne vas pas me mettre sur l'autel, tu ne vas pas mettre le feu, tu ne vas pas me tuer. Il n'était pas comme ça, lui. Il s'est soumis à la volonté de son père. Et quelle soumission! Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça envers mon père. Et d'ailleurs, mon père n'a pas demandé non plus. Hein? Et vous, les parents, ne devriez pas demander non plus. Hein? Mais là, c'était la réalité. C'était un homme soumis à son père. À tel point, il avait confiance en Dieu aussi, Isaac. N'est-ce pas? Je ne peux pas aller plus loin que ça, mais on voit cette soumission. Et qu'est-ce qu'on voit dans la bouche de Jésus? Dans Luc chapitre 22. Quand il se prépare pour se sacrifier pour vos péchés, qu'est-ce qu'on trouve dans sa bouche? Dans Luc chapitre 22 et verset 42. On va lire à partir du verset 41. Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et donc on voit la soumission de Jésus à son Père, au point de mourir pour mes péchés et pour vos péchés. Maintenant, regardez dans Matthieu chapitre 10. Et je reviens à la question de la famille. Matthieu chapitre 10. Et verset 37. Avec toute cette histoire derrière nous maintenant, l'histoire d'Abraham avec Isaac et le père, l'histoire du Père Céleste avec le Fils de Dieu, hein, les deux sacrifices, la soumission, regardez ces versets-là. Chapitre 10 et verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, en France, les églises qui grandissent sont les églises qui sont à 100% pour Dieu. Les gens des églises sont à 100% pour Dieu. Ce n'est pas un petit peu pour Dieu, et beaucoup pour soi-même, mais pour Dieu. Et ces églises-là, en France, grandissent. Frères et sœurs et parentes, il faut diriger vos enfants. Diriger. Selon l'espérance que vous avez pour chacun de vos enfants. Et en même temps, il faut rester soumis à la volonté de Dieu en ce qui concerne leur avenir. Hein, comme ma mère a dit, j'aurais voulu que tu deviennes avocat. Bon, je ne suis pas devenu avocat. Mais elle n'est pas fâchée non plus. Hein? Mais il faut diriger. Il faut encourager. Il faut avoir un désir de voir que vos enfants vont réussir dans la vie. C'est normal. Et en même temps, avoir vos espérances soumis à ce qui pourrait être la volonté de Dieu pour leur avenir. Le service de Dieu est le devoir de chaque enfant de Dieu. Que ça soit à la maison, que ça soit dans la rue, que ça soit à l'école, que ça soit au travail. Le service de Dieu, c'est le devoir de chaque enfant de Dieu. Par exemple, à l'école, il ne faut pas tricher. C'est vrai qu'en France, c'est interdit de parler de Dieu à l'école, mais ce n'est pas interdit d'être honnête. Par exemple. Hein? Donc, soyez différents. Vivre pour Dieu, soyez différents au lieu de vivre pour le monde. Soyez honnête au lieu de malhonnête. Soyez sans honte. Il n'y a pas raison d'avoir honte de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Déjà, des façons, quotidiennement, qu'on peut vivre pour Dieu à 100%. Donc, je veux dire aux enfants, finissez vos études ou votre formation, hein, que ça, dans le sens séculier, hein, dans le sens laïque. Finissez vos études et votre formation. Vous savez, le pasteur hein, ou le missionnaire a besoin d'une éducation. Moi, j'ai bac plus 7 pour arriver ici. C'est comme ça que vous terminez les choses en France. Parce qu'on a besoin d'une éducation. Mais aussi, il y a souvent des pasteurs, je veux dire des missionnaires, qui sont spécialisés. Il y a des missionnaires qui sont docteurs. Comment être un missionnaire docteur si on n'a pas fait des études pour être docteur? Ou des dentistes? Ou des infirmiers? Donc ce sont tous des parties de la formation. Et puis, par la suite, on a rajouté la formation théologique. Vous voyez? Et encore plus, et on voit ça très souvent, en France, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est donné aux pasteurs, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, il faut pourvoir pour vos besoins. Hein? Donc, c'est absolument nécessaire. Hein? Si Dieu vous appelle à un service particulier, qu'il en soit ainsi. Hein? Ma mère, c'est vrai, était un peu triste quand j'ai dit, bon, je vais travailler pour Dieu. Elle était un peu triste parce que c'est que ce n'est pas toujours la joie. Hein? Mais elle n'a pas fait obstacle non plus. Hein? Et aujourd'hui, elle est contente. Si Dieu appelle vos enfants à sa service, qu'il en soit ainsi. Hein? Donc, peut-être tu as connu cet homme, je ne sais plus son nom, un professeur à Supélec, donc l'université là, supérieure d'électricité à Metz, où il y a un professeur, donc professeur à l'université, n'est-ce pas? Et il est parti en Amérique du Sud pour travailler avec une antenne de radio pour annoncer l'évangile. Ben, il avait besoin de quelqu'un avec des connaissances comme ça pour travailler avec cette œuvre missionnaire. Il n'aurait pas pu le faire s'il n'était pas formé pour le faire. J'ai parlé récemment avec un ingénieur aéronautique. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ingénieur en... Ingénieur... en aéronautique. Et il double en tant que pasteur. D'accord? Et ainsi de suite. J'avais un pasteur à Sacramento qui était... qui avait son travail. Et il était le pasteur de l'église. Enfin, maintenant, il est retraité de son travail. Il dit, oh, maintenant, je peux me donner à plein temps à mon travail de pasteur. Hein? On ne sait pas ce que Dieu veut de chacun. Mais, vis-à-vis des parents, il faut faire le don de vos enfants. Et je ne veux pas dire, allez sacrifier vos enfants, holocauste, couper la gorge, rien comme ça. Non, ça serait vraiment de bêtise. Parce que Isaac, ça fait combien de déjà 4000 ou 4500 ans. Hein? Non. Mais si Dieu demande que vous sacrifiez à son service vos enfants, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Hein? Si, attention, nous ne sommes pas catholiques. Hein? Parce que les catholiques à l'époque disaient que la seule manière de servir Dieu, c'était de devenir prêtre ou religieuse. N'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas de cette optique. Chacun sert Dieu dans sa vie de tous les jours, qu'il soit dans la bourse, qu'il soit maître à l'école, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit balayeur dans la rue. Chacun sert Dieu. Mais si en plus Dieu voudrait qu'une personne aille dans un champ missionnaire ou dans un service dans l'église locale, qu'il en soit ainsi aussi. Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse.